Bon, bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer ce conseil municipal du 28 octobre. On commence par faire l'appel. Donc Isabelle Touzard présente. Gilles Cuzin, absent, a donné pouvoir à Laurent Pratt. Juliette Paproki-Camard.
Présente.
Gilles Chicot.
Présente.
Séverine Chégismont est absente.
Elle n'a pas donné pouvoir.
J'ai un pouvoir.
Ah, donc donner pouvoir à non,
moi j'ai le pouvoir de Yolande.
Allez Yolande. Donc mais Séverine n'a pas.
Séverine, je sais pas.
Ah. Bonjour Bernard. Pas de souci, on commence juste l'appel.
T'es tout beau.
Ouais.
Ah. Mets-toi avec à côté de moi comme t'es tout beau.
Donc Juliette Paproti-Camard, donc Gilles Chicot. On a dit, donc Séverine est absente. Corinne Durand, absente, donne pouvoir à Véronique Pomarède. Mélanie Arnal.
Présente.
Hélène Bonnécuel.
Présente.
Dominique Baril.
Présente.
Guillaume Garcin.
Présente.
Laurent Mailloux.
Présente.
Jean-Claude Mouret.
Présente.
Claudine Moyane, absente, a donné pouvoir à Laurence Rousseau. Patrick Ortigoza.
Présente.
Véronique Pomarède.
Présente.
Laurent Prat.
Présente.
Laurence Rousseau.
Présente.
Bernard Senot
bon.
Et Yolande Théron, absente, donc donne pouvoir à Juliette.
Pas trop.
Voilà, bah j'ai fait tourner le, ça. Donc. Et il y a aussi le PV pour l'approbation du compte rendu qu'on va voter maintenant, qu'il faudra signer. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour qui contient 9 points. Est-ce qu'il y a des observations sur cet ordre du jour? S'il n'y en a pas, je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. On va désigner un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance qui voudra bien relire le compte-rendu. Laurence Rousseau. Merci Laurence. Et donc on passe à l'approbation du compte-rendu de la séance du 9 septembre. Est-ce qu'il y a des observations au compte-rendu? S'il n'y a pas d'observation, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le compte rendu est approuvé à l'unanimité. Et donc on passe au vif du sujet. Alors avec en premier, donc je prends la parole parce que Séverine est absent, un point budget qui est en fait une décision modificative, donc la troisième de l'année qu'on doit prendre pour pouvoir permettre à des délibérations qu'on va prendre par la suite d'être effectives, d'être possibles. Donc il y a une première délibération. Alors, vous savez, quand on fait une décision modificative, on ne doit pas toucher, je dirais, à l'économie globale du budget. C'est-à-dire que si on fait des plus sur une ligne, sur un chapitre, il faut qu'on trouve des moins sur un autre chapitre pour qu'au final, ce soit neutre sur le budget final. Donc là, la demande, c'est d'augmenter le chapitre 65. Le chapitre 65, c'est celui... C'est pas celui qui s'appelle frais de gestion courante. Non, c'est pas celui-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est celui qui englobe les indemnités des élus et qui englobe les subventions aux associations. C'est 65. Donc on demande d'augmenter l'article 65-31 de 3 500 euros, le volant indemnité aux élus, pour prendre en compte une nouvelle délégation régularisée, parce qu'on a omis de le faire plus tôt. Et la ligne subvention, de l'augmenter de 1 000 euros pour pouvoir... faire une nouvelle subvention tout à l'heure. Et puis donc du coup, on vous propose de diminuer le chapitre 011, l'article honoraire de 4 500 euros qu'on avait budgété, voilà, budget primitif et qu'on peut diminuer d'autant. S'il n'y a pas d'observation, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc, et on passe donc à la deuxième délibération, donc justement qui porte sur le volet indemnité d'élu. Ben là, il s'agit de, on a donc là, c'est une décision du maire. Hein. J'ai créé une nouvelle délégation qui est petite enfance, mobilité numérique. Et donc, parallèlement à la création de cette délégation, il faut en conseil municipal, par contre, voter l'enveloppe correspondant à l'indemnité du conseiller délégué. Donc, en l'occurrence, Guillaume. Donc, on doit faire un mea culpa, on aurait dû le faire plus tôt. Voilà. Donc, Guillaume, trop gentil, ne nous l'a pas. Mais vaut tard que jamais. Donc, je la mets au. À moins qu'il y ait des observations sur ce point, je mets au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Donc, c'est la même enveloppe que celle qu'on a décidée pour tous les conseillers délégués. Hein. Qui s'abstient. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, je vous remercie beaucoup.
Vous aussi.
Et on remercie Guillaume par la même occasion, en effet, parce que c'est beaucoup de dossiers. On peut faire des petits points d'actu hein, sur les mobilités. Ben, c'est la question des vélos, ça va être la question du covoiturage. Parce que c'est revenu, tiens, justement, au conseil métropolitain, là, qui va être en train de préparer du jour, et ça va être un point qui va être remis au prochain. J'ai appris ça ce matin, au conseil métropolitain, là, pour relancer vraiment très fortement la question du covoiturage. Notamment dans les communes qui sont moins desservies, en tram, tout ça. Et la question devient brûlante avec le coût de l'énergie, de l'essence, du gasoil qui augmente, qui flambe là. Donc ça, ça va être un gros sujet. La question du numérique, bien entendu, avec notamment tous les outils pour la municipalité, le suivi de ce dossier, et puis la petite enfance, le suivi de la crèche.
On va parler de l'arrêt stop.
Voilà, ça reste top. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir, j'en profite, il va falloir qu'on refasse, je pense, une réunion avec la métropole. Il y a aussi ce que tu as proposé, là, tu peux dire, le courrier que tu as fait pour Pignan, là, pour la ligne de bus.
Oui, pour donner une ligne de bus, pas forcément régulière, mais pour avoir commencer une liaison sur Pignan, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes pour la liaison entre Longé et Pignan, mais les services pour Saint-Georges, mais Pignan, il n'y a rien. On a fait un projet pour demander quelque chose, on a vu quelque chose, au bout d'un moment,
qu'il peut faire.
C'est pour ça, quoi, parce que c'est vrai que ça manque.
Voilà, donc là, je pense que ouais, suite à la visite de Julie Fraîche qu'on a eue avant l'été, au mois de juillet, parce que au mois de juillet, quasiment, je pense qu'il faut qu'on remonte encore un dossier, qu'on retourne bien se faire connaître. Voler. Donc c'est des sujets hyper importants. Donc voilà, on passe au troisième point qui est l'aide d'urgence gel. Pour donc là pareil, je vais exposer Séverine est absente. L'aide d'urgence gel, l'abondement du fonds d'urgence. Je vous ai fait suivre par mail cet après-midi. Je ne sais pas si vous avez eu le temps encore de vous regarderez. On a reçu la description du dispositif de gestion de ce fonds d'aide et notamment de l'attribution aux viticulteurs. Donc c'est un fonds d'aide qui est mis en place au niveau départemental par le département en collaboration avec la Chambre d'agriculture. Et donc il est proposé, donc le département l'abonde à hauteur de 5 millions d'euros, je crois, de mémoire. Et donc il est demandé, proposé aux collectivités de l'Hérault qui le souhaitent, communes et intercommunalités, de l'abonder. Et donc c'est exceptionnel. Voilà, il y a une carte sur le document que vous avez reçu. Hein, il y a une carte qui montre que l'ampleur un peu des dégâts. Murviel n'est pas dans les communes les plus impactées, mais bon, il y a quand même des viticulteurs d'impactés chez nous. Et donc, la gestion de ce fonds est confiée à la Chambre d'agriculture qui ne perçoit aucune marge dessus. C'est-à-dire que l'intégralité de ce qui est mis dans le fonds d'aide retournera aux viticulteurs. Et donc, il va y avoir deux niveaux, les 5 millions d'euros du département gérés à l'échelle de l'ensemble du département, et ensuite par intercommunalité, ce qui sera abondé par les EPCI et par les communes. Ça, c'est la précision qu'on a eue. Donc nous, ce qu'on va proposer de voter va aller, je dirais, sur le territoire de la métropole. Voilà, on abonde en fait comme ça, et on laisse le soin à la Chambre d'agriculture d'ensuite répartir cette aide aux viticulteurs en fonction des dégâts qu'ils ont connus. Donc c'est la métropole va voter à l'échelle de la métropole une aide de 60 000 euros. Donc on a appris ça donc ce matin. Ce qui fait que globalement, plus l'exonération de taxes foncières qu'a voté la métropole et une autre aide, la métropole dans sa globalité pour l'ensemble de la population, enfin l'ensemble du territoire métropolitain va aider à hauteur de 180 000 euros. Donc, nous, on va proposer une aide de 1 000 euros. Ça peut paraître peu, mais ramené au nombre d'habitants et en rapport avec la métropole, c'est pas peu, parce que c'est comme si la métropole donnait 250 000, quoi, on va dire ça, ramené au nombre d'habitants. Donc, il faut toujours ramener... on est 2 000 habitants, la métropole en compte presque 500 000, 480 000. Donc, à notre échelle, c'est un effort qui est un peu du même ordre de grandeur que ce qui se fait à l'échelle intercommunalité. Donc, il y a une cohérence. On est même un peu au-dessus si on était vraiment dans une règle de 3 très, très, très précise. Voilà. Donc l'idée, c'est d'abonder ce fonds départemental. Donc ce n'est pas une aide spécifique à tel ou tel viticulteur. C'est on abonde ce fonds qui ensuite est géré et réparti sur la profession viticole de l'intercommunalité. Sachant que les communes de l'interco, de la métropole, sont plus ou moins touchées, elles aussi... Celles de la plaine, par exemple, voilà, vers Pignan, tout ça, sont très affectées aussi. Donc c'est vraiment une solidarité interterritoriale. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des observations par rapport à ça, Laurent.
Sur les communes voisines, qu'est-ce qu'elles ont voté comme...
Eh bien non, j'ai pas le temps de la chercher. Je sais que Pignan a voté, je sais. Parce que je ne sais pas si d'autres communes l'ont fait, je pense. Mais j'ai pas. En disant qu'en conférence des maires, en bureau ce matin, ça n'a pas été évoqué. Il y a juste la métropole, quoi. Pour l'instant, je pense.
Non, ça paraît bien, moi, je trouve.
Oui, moi, je trouve que c'est une contribution à la hauteur de notre. De ce qu'on représente dans le territoire et qui permet aussi de marquer notre soutien, quoi, globalement. S'il n'y a pas d'autres observations, je mets au vote cette aide d'urgence gel pour le fonds d'urgence départemental. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et là, je prends encore la parole. Après, j'ai beaucoup moi qui prends la parole cette fois. l'approbation du dernier rapport de la CLEPT. Alors, peut-être prendre 2 minutes, comme c'est la première fois, je crois, que dans la nouvelle équipe municipale, on vote un rapport de la CLEPT, peut-être vous réexpliquer ce que c'est. Donc, c'est Séverine qui y siège, hein, mais bon, étant absente, du coup, je vais vous présenter. La CLEPT, c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc c'est une commission qui est mise en place dans les intercommunalités où par la loi, hein, où dès lors que les communes ont transféré des compétences à l'intercommunalité. Et donc quand on transfère une compétence, on transfère des dépenses et des recettes. Selon les compétences, parfois il y a beaucoup de dépenses et peu de recettes, parfois il y a beaucoup de recettes et peu de dépenses. Par exemple, par le passé, quand les communes ont transféré la CFE, la compétence économique, c'était beaucoup de recettes qui étaient transférées et peu de dépenses. Donc en fait, du coup, la métropole reversait, c'est dans ce sens-là, reversait aux communes, à l'instant T, au moment où la compétence est transférée, reversait l'équivalent des recettes au moment. Depuis... Si les entreprises, le tissu entrepreneurial, bien entendu, s'est développé, il y a des nouvelles CFE et tout, mais c'est gelé, je dirais, au moment du transfert. Là, c'est plutôt des compétences positives pour les communes. Nous, depuis que la métropole a créé, on a transféré, donc le gros morceau, c'est la voirie, et plus d'autres compétences, mais qui sont moins impactantes au niveau financier, comme la question du SDIS, par exemple, où, vous savez, l'entretien des bornes à incendie, le reversement qu'on fait aux pompiers tous les ans. Chaque commune, il faut savoir, verse au SDIS une contribution. Tout ça, maintenant, c'est la métropole qui le fait pour nous. Donc, tout ça, c'est dans les charges qu'on a transférées. Donc, ce qu'on a transféré à la métropole en 2015... C'est l'équivalent de toutes les dépenses qu'on faisait. Hein. Il y a eu des modes de calcul pendant un recul de 10 ans. Et puis, on a transféré aussi les recettes qu'on parfois on en avait. Genre les taxes d'aménagement, choses comme ça. Donc après, depuis que ça, donc à ce moment-là, au moment des transferts, en 2015, il y a eu beaucoup de réunions de cette CLEC, de cette commission qui est composée des adjoints aux finances, en fait, des différentes communes. C'est ça, hein. Et puis, grosso modo, hein, chaque commune désigne le membre. Donc nous, c'est Séverine qu'on a désigné, adjointe aux finances. Et puis, c'est animé par le vice-président aux finances de la métropole. Et donc, à chaque fois qu'il y a des demandes de modification, la CLEC doit se réunir pour examiner. Par exemple, il y a depuis des équipements qui avant étaient soutenus par le... qui étaient par exemple à une ville, genre la ville de Montpellier, qui sont devenus métropolitains. Dans ce cas-là, il faut revalider. Voilà, il peut y avoir des ajustements. Donc là, vous avez... ça, j'ai mis sur table, voilà le rapport de cette CLEC qui s'est réunie donc en septembre avec le rapport du 5 octobre. Et donc, il y a eu l'élection du président et des deux vice-présidents de la CLEC. Donc, à chaque fois que la CLEC fait un rapport, il est demandé à chacune des 31 communes de valider le rapport, même si elles ne sont pas concernées. Parce que, par exemple, ça a pu toucher une autre commune. Les 31 communes, quand même, doivent valider le rapport en conseil municipal. Donc, après, vous avez le détail hein, dans le rapport. Donc, il y a eu... Alors, pourquoi il y a des modifications? Par exemple, il y a différents modes de calcul qui ont été proposés aux communes, notamment pour calculer les attributions de compensation pour la voirie. Selon qu'on voulait en faire passer en investissement ou pas. En 2016, c'était en 2015, c'était en 2016 ou 2017 qu'on a créé les ACI. Certaines communes ont dit « moi je prends cette méthode de calcul », d'autres ont dit « non, je reste sur l'ancienne ». Maintenant, en cours d'année, enfin, en cours de mandat, certaines communes reviennent sur leur décision et proposent de changer de mode de calcul. C'est ce qui s'est passé là, si je comprends bien, pour Fabrègues et la Vérune. Ensuite, il y a des correctifs. Parce que aussi, il y a dans certains cas des emprunts qui ont été transférés à la métropole, et là il y a un correctif de calcul d'emprunt. Il y a aussi des transferts de subventions. Donc là, c'est une subvention au vieux Biclou de la ville de Montpellier qui est transférée à la métropole. Ça, c'est un petit truc. Il y a un transfert de compétences, c'est le nettoiement des halles et marchés, l'acquisition des corbeilles à papier de la ville de Montpellier qui est transférée à la métropole. Donc ça, c'est aussi, ça doit être des ajustements, c'est-à-dire que ça n'avait pas été fait clairement en 2015 et donc on réajuste. Il y a au moins des transferts de compétences, il y a toujours eu des petites zones d'ombre. Là, je pense que le nettoiement des marchés n'avait pas été inclus. Et puis, compensation à la commune de Clapiers de la redevance d'occupation TDF pour l'hébergement d'une antenne de diffusion sur son territoire. Voilà, c'est des petites choses qui sont... Mais il faut qu'on repasse par toutes ces commissions pour pouvoir valider ces ajustements de transfert de charges liés au transfert de compétences. Je ne sais pas s'il y a des observations. Je vous laisserai décortiquer le rapport si vous voulez, parce que c'est un peu technique. En tout cas, sachez que si jamais il y avait en CLEC un sujet qui touchait directement Muriel, ben, on se serait discuté en conseil municipal bien avant. Là, c'est plus des choses. S'il n'y a pas d'observation, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc là, cinquième affaire, c'est la création d'un règlement intérieur de temps, sur le temps de travail et donc sur les congés des agents municipaux. Donc on a déjà voté en conseil municipal le règlement relatif au télétravail. On a déjà voté le règlement relatif aux astreintes et permanences. Donc là, c'est relatif le règlement intérieur qui vise à bien stabiliser les questions portant sur le temps de travail. Donc, je ne sais pas, Nathalie, peut-être, je te laisse, si tu veux rajouter un petit point sur ce qui est important dans ce règlement intérieur, qui stabilise...
Bah, surtout, tout ce qui est méthode pour poser les congés, les droits à congés, ça précise les règles de vie dans la collectivité, ce qu'on peut faire et pas faire. Voilà, ça permet d'avoir un document un peu lourd, hein, une vingtaine de pages, mais qui explique bien le règlement intérieur, en gros, du fonctionnement, et qu'on va remettre à chaque agent et à chaque nouvel agent, comme ça, ça permet de comprendre le fonctionnement, c'est les droits et les obligations, essentiellement. Les nouveaux dispositifs de CET aussi, auxquels les agents peuvent prétendre, donc poser des congés et les capitaliser. Voilà, c'est...
En fait, les règles existaient déjà, mais
là, elles sont écrites
dans cette délibération. Il n'y a rien de nouveau, je dirais, par rapport au fonctionnement précédent des agents. Voilà, on ne peut pas poser ses congés à la dernière minute. Il y a des démarches. Ben, oui, il faut savoir, mais au début, quand on est arrivé en 2014, il n'y avait rien de tout ça. Hein, il n'y avait rien d'écrit. Donc là, c'était écrit, je dirais, de façon... démarche qualité quoi en interne, et là l'idée c'est de le graver par délibération.
Ce qu'il faut dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé à plusieurs sur cette rédaction et qu'on a pris des agents des différents services pour travailler ensemble à la rédaction du document. Donc c'est intéressant aussi ce travail en transversalité qu'on n'a pas l'habitude de faire sur certains, dans la plupart des dossiers. Là c'était intéressant d'avoir un travail collectif avec des agents qui d'habitude ne travaillent pas ensemble. Donc c'était. Ça s'est souligné.
Et on a eu les félicitations du centre de gestion.
Oui.
Tu peux le dire, Nathalie.
Oui. Il n'a jamais lu un document aussi bien écrit. Et donc, il était ravi de la précision du travail qu'il avait fait.
Pareil pour le télétravail. Hein. On a eu des félicitations pour le télétravail. Oui. Donc, il faut dire que là, maintenant, avec tous ces documents qui sont petit à petit formalisés, on est bien. Alors après, il y aura encore le document unique à faire. Ça, c'est là qui sur les questions de sécurité des agents au travail. Voilà, ça, c'est un gros. On en a déjà parlé. Mais petit à petit, on arrive à. Je trouve que c'est bien à formaliser. Puis ce qui est bien, c'est que c'est fait dans la transparence et en partenariat avec les participations des agents. Notamment la question des. C'était important quand même, la question des permanences, des astreintes qu'on a. Tout est clair. On a en plus, vous le savez, ça c'était avant dans le mandat précédent, le régime indemnitaire aussi qui a été clarifié avec le RIFSEP. Donc petit à petit, on arrive à un fonctionnement. Voilà, les règles sont claires, sont transparentes, sont partagées. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas qu'on l'amende s'il y a besoin d'améliorer. Hein, mais, voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à d'autres collectivités, c'est que, parce que c'est un gros sujet aussi, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé sur la ville de Marseille, par exemple, avec les services de collecte des déchets, c'est les fameux 1607 heures. Donc, à Murviel, les agents sont à 1607 heures. Il faut savoir qu'il y a des communes qui sont... où, même si c'est la règle, travailler 1607 heures, il y a beaucoup de communes, de collectivités où les agents ne travaillaient pas 1607 heures. Donc, on est bien.
C'était le fini parti.
Ouais. Voilà. Donc, plus vite c'était fini, plus vite c'était parti.
Ils peuvent travailler jour et nuit. Si on fait le fini parti ici, ils peuvent travailler jour et nuit, quoi.
Ouais.
Avec tout ce qu'il y a à faire. Il faut approuver ça alors.
Ouais, voilà. Mais bon, il y avait aussi d'autres secteurs. Même sur la ville de Montpellier, ça a été un gros travail qui a été fait avec tout le secteur de la petite enfance. Hein. Ça a été, fallu prendre ce dossier à bras le corps. C'est pas évident avec les syndicats et tout. Mais voilà, on y arrive quoi. C'est... Sauf à Marseille, où apparemment, c'est pas...
C'est Marseille, voilà.
Il y a 7. Bon, mais écoutez, ça, je crois que c'est le troisième, dernier gros volet de la... Après, voilà, je pense que c'est déjà bien. Et puis, on a encore des choses à faire, mais... Donc, si vous n'avez pas de remarques, j'ai mis au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Mince, c'est encore moi, là.
Oui.
Moi, ils sont absents. Je suis désolée, c'est toujours moi qui parle. Hein. Bon, c'est le concours des circonstances, parce que Gilles est absent. Je continue donc, opération cœur de village. C'est quand même un moment important dans la vie du village, le lancement de cette opération d'aménagement. Mais là, je parle à la place de Gilles, hein, avec qui on a préparé, donc ça, ça a été regardé voilà, à différents niveaux. On est sur un projet qui est vraiment au cœur de notre projet de territoire, quoi, de notre projet urbain, qui est voilà, qu'on avait bien formalisé dans le mandat précédent, mais voilà, qui est, je veux dire, bien en continuité, toujours dans ce même mandat, qui est d'avoir un village qui soit vivant, qui soit un village dortoir, avec une activité économique, commerciale, associative, culturelle, etc. Et avec la volonté de que tout ça se passe en cœur de village. On arrive à faire à peu près, on arrive à faire hein, sur toutes nos activités, jusqu'à présent, elles sont vraiment accessibles à pied, de tous, ou à vélo, moyennant les évolutions de voirie pour que les cheminements doux soient sécurisés, mais il y a du travail. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est, on a mis hein, les extraits du SCOT, du schéma de cohérence territoriale de l'agglo, on est totalement en cohérence avec ces grandes orientations du SCOT. Donc accompagner l'attractivité démographique, ben oui, comme le village va s'agrandir, on va passer dans les années qui viennent à 2500 habitants. Il va y avoir donc des attentes fortes vis-à-vis des commerces qui vont faire répondre à cette croissance. Autre élément du SCOT, offrir un maillage commercial permettant de limiter les déplacements et de préserver les centralités urbaines des villes et villages, ben là ce projet est en plein dedans. Cohérence avec le SCOT. Organiser, faciliter la mobilité des habitants à l'échelle du grand bassin de vie. Donc voilà, on est tous sur question de mobilité. Proposer une organisation économique qui favorise la complémentarité des offres. Le fait de réorganiser nos commerces et de les permettre de se développer en centre-ville, on est tout à fait là-dedans. Redéployer l'agriculture comme réponse à la nécessité de gérer les espaces paysages. Là, c'est notre marché. Qui est un marché de producteurs, qui est un outil qui soutient la production, l'agriculture locale. Et dans ce projet, ben, il y a l'idée d'avoir une place pour soutenir le marché. Promouvoir collectivement la préservation de l'environnement et les écosystèmes naturels, ben, c'est un peu le lien. Hein, c'est, dès lors qu'on est dans un projet qui réinvestit le centre urbain, et qui ne cherche pas à s'étendre, à se développer en extension urbaine, qu'on est en réinvestissement au centre-ville, on est dans ces considérations-là. Et l'identité paysagère et le cadre de vie. Donc il y aura quand même ce volet important dans le projet. Voilà, donc les finalités, je dirais, en termes d'urbanisme plus lointain dans lesquels on s'inscrit, et les objectifs plus précis de ce projet, qu'on va appeler cœur de village. Ben c'est de recréer les conditions pour le développer. Ça, c'est la première motivation. Les commerces avec plus de qualité et de quantité en termes de surface, de plancher notamment. Donc, on rappelle dans les délibérations que le petit centre commercial actuel qui a été créé dans les années 80, à l'époque, avait toute sa logique, puisqu'il était à mi-chemin entre le village et le nouveau quartier résidentiel qui se développait à l'époque, au-dessus des jardins. Donc il était à mi-chemin. Et voilà, à l'époque, il a sûrement été, il est toujours hein, très utile. Donc des locaux, c'était un investissement de la commune, puisque les locaux sont communaux. Maintenant, ben, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Entre-temps, ben, le village s'est développé à la rivière Longue, partout, les lotissements et maintenant les saliniers. Maintenant, on a une route départementale qui traverse le village et qui rompt tous les liaisons et qui se développe beaucoup avec un trafic croissant. On a eu les données de circulation, mais ça a doublé en dizaines d'années, hein, le trafic de voitures. Donc on a un problème de connexion aussi avec le reste du village. Le besoin d'avoir une place, une vraie place de village suffisamment vaste, organisée, pour accueillir le marché, et puis aussi un lieu de rencontre, un lieu aussi où les commerces puissent avoir des vrais extérieurs, des vraies terrasses, quoi, aussi. Et puis aussi, ça c'est plus secondaire, mais c'est quand même très important à l'occasion de ce projet, c'est de requalifier tout le carrefour, là, justement pour sécuriser, bien le réarmer, le cœur de village, bien le réancrer avec le vieux village, et puis bien sécuriser ce carrefour, réfléchir à la circulation piétonne, voiture et tout, pour tranquilliser tout ça. Et donc dans ce projet, il y aura une composante logement, mais qui n'est vue que comme secondaire, comme nécessaire et suffisante pour équilibrer l'opération. Mais ce n'est pas le centre, la centralité du programme. Mais voilà, il faut qu'elle soit, ce soit fait pour, en quantité nécessaire et suffisante.
Pour, c'est nécessaire pour l'urbanisme aussi, là.
Et c'est oui, oui.
On va pas faire une galette à rez-de-chaussée, quoi.
Ouais, ouais. Bien sûr. Et donc, pour les aspects économiques, urbanistiques, etc. Oui. Mais disons que ce n'est pas la motivation première de la motivation première de l'opération. La motivation première, il faut savoir, c'est vraiment l'espace public, les commerces.
Il faut bien que ça reste la dimension de la place reste suffisante pour que ce soit vraiment une place et pas qu'on passe de dire ben, il faut faire un peu plus de bâtiments, on rogne sur la place pour pouvoir que le, boucler le budget, je dirais.
Tout à fait.
Il faut vraiment qu'on garde une place suffisamment grande.
J'y viens là, à ça. Donc tout à fait. Donc donc dans la délibération, qu'est-ce qu'on dit ? Donc cette délibération, c'est la première de cette opération. C'est celle qui lance concrètement le projet et qui définit à ce stade le périmètre et les objectifs. Donc le périmètre de l'opération, il sera annexé. Donc c'est concrètement tout l'espace qui est compris entre la route départementale de la route de Bélair, de Gravel, jusqu'à à l'arrière donc de la vigne qui est de ce côté-là. On descend donc jusqu'à la limite entre le parking et le petit jardin. Le petit jardin n'est pas inclus, même s'il sera pris en compte pour l'étude générale, hein, pour les questions d'ancrage, mais il ne fera pas objet de l'aménagement. Et on remonte jusque à la rue, tout petit parking qu'il y a devant l'épicerie, jusqu'au puits, en dessous de la montée, de la Trienne. Donc ça c'est donc concrètement ce périmètre inclut de l'espace, du terrain foncier communal, propriété privée de la commune. Donc c'est le parking qui est devant la mairie et le parvis qui est devant la salle du conseil et les commerces. Ça c'est du domaine privé communal. Ça inclut de l'espace public géré par la métropole, c'est la voirie. Donc c'est les routes départementales et la rue des lavoirs. Et ça inclut des parcelles, parce qu'il y a deux ou je crois trois parcelles, il y en a une toute petite en haut, privées au niveau de la ville. Et globalement, on est sur une emprise. Alors, j'ai pas l'emprise. On la remettra, je pense, l'emprise du périmètre.
Elle est en avis.
Bon, je ne voudrais pas dire de bêtises. On rajoutera la surface du périmètre. Les 1600 m², c'est juste la ligne. Donc, ce qu'on demande aussi dans ce qu'on propose dans la délibération, ce qui sera voté, c'est donc ce périmètre, c'est les objectifs tels que je les ai donnés plus haut, et c'est la possibilité de recruter une assistance à maîtrise d'ouvrage qui va accompagner la municipalité pendant tout le processus de rédaction du cahier des charges, du recrutement des aménageurs. Donc du recrutement des aménageurs. Donc cette assistance maîtrise d'ouvrage, il y aura donc à l'occasion de ce projet une concertation, mais l'assistance à maîtrise d'ouvrage va nous aider à définir les modalités de la concertation. Donc on ne les précise pas encore là, ni quand on va les lancer. Ce n'est pas une obligation réglementaire, mais c'est quelque chose qu'on souhaite faire, cette concertation. Concertation, bien entendu, avec les futurs occupants, au premier chef les commerçants, mais aussi les riverains, mais aussi l'ensemble du village, quoi. Voilà. Et Cette concertation doit amener à définir le cahier des charges sur la base duquel on va lancer le concours. Et c'est dans ce cahier des charges, comme tu le dis, Patrick, qu'on va inscrire des invariants. Par exemple, surface de la place. Par exemple, minimum de surface de plancher des commerces. Enfin, des invariants, comme ça. Après, il y a des invariants et puis il y a aussi des souhaitables. Voilà. Après, c'est là-dessus qu'on va voir comment les aménageurs répondront et la qualité des offres. Donc, il va y avoir cette première délibération. Ensuite, le travail sur le cahier des charges. Une fois qu'il sera élaboré avec l'assistance de cette assistance et maîtrise d'ouvrage, une deuxième délibération sans doute en milieu d'année 2022 pour adopter le cahier des charges et créer une commission ad hoc qui examinera les offres. Et ensuite, une fois qu'on aura eu les offres, cette commission se réunira et le conseil municipal se réunira une troisième fois pour retenir, délibérer sur l'aménageur retenu. Donc ça nous repousse plutôt la fin de l'année 2022. Et ensuite, on passera à une enquête publique. Et puis ensuite, toutes les démarches de dépôt de permis d'aménager, d'acquisition foncière, tout ça, pour arriver ensuite...
Et du coup, la concertation avec les habitants, elle est... Avant
le
cahier des charges ?
Oui.
Et elle va se faire comment ?
Eh bien, c'est ça qu'on va définir avec l'assistant, avec le maître d'ouvrage. Donc, ce qu'on fera, c'est que, du coup, on refera une délibération pour acter le mode de concertation. Mais une fois qu'on l'aura défini avec l'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est trop délicat de définir maintenant toutes les modalités de concertation. Donc, dans le cahier des charges de l'AMO, c'est définir avec lui la concertation et ensuite, avec lui, mener cette concertation, mener tout ce travail de définition du cahier des charges. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Sinon, je vous laisse les observations. Questions sur ce beau projet. Ça va être un moment fort, oui.
Il ne faudra pas oublier que ça sera fait, la place de la voiture, cet espace.
Ah, bien sûr. Ouais.
Créer une place de parking pour les gens du village, du centre du village.
Si on peut venir à pied.
On essaiera qu'il y soit un maximum à venir à pied du vieux village, quand même, mais il y en a quelques-uns qui viendront toujours en voiture.
Ils habitent.
Oui, par rapport au commerce, à tous les gens qui traversent, dont on parlait, si on veut les attirer, je pense que les commerçants souhaiteront attirer une partie.
Ouais. Tout le volet stationnement va être.
C'est ce dosage
subtil à faire entre ce qui est nécessaire. En fait, ce qu'il faut, c'est ce qui est absolument nécessaire pour que ces personnes puissent venir, mais pas en mettre trop non plus pour pas que tout le monde vienne en voiture. Donc il y a un dosage très.
Après, il y a très subtil.
Bon, mais là, on rentre déjà dans le travail qu'on va faire.
Non, c'est l'envie. Ils vont pas se garer pour la chute.
Donc, il y a tout ce dosage à faire qui va être l'objet de ce cahier des charges à définir. Il y a aussi le stationnement des employés des commerces à prévoir aussi. Après, dans le stationnement, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est dans quelle mesure on peut faire ce qu'on appelle du foisonnement de stationnement. Ça, c'est l'étude, c'est le travail qu'on va faire dans le cahier des charges qui va. Par exemple, du stationnement pour du logement, les gens partent en voiture dans la journée et stationnent plutôt le soir ou la nuit, et dans la journée, ces places de stationnement sont vides. Par contre, c'est là où les commerces fonctionnent. Donc, il y a aussi l'optimisation, ce qu'on appelle le foisonnement du stationnement qui est réfléchi. Mais bon, là, on rentre déjà dans le nerf, dans le cœur de la réflexion. C'est ça qui va être l'objet du travail avec l'AMO à venir. Après, dans ce cahier des charges qu'on donne aux aménageurs, on va donner des minimums, on va donner des fourchettes, on va donner des choses comme ça. Il faut aussi, après, une fois qu'on a donné ces invariants, laisser libre cours aussi à la créativité des aménageurs, une fois qu'on a posé les invariants.
Est-ce que ce projet pourrait se faire indépendamment de l'acquisition de la vigne?
Oui, oui, l'avance, oui, oui.
Donc ça pourrait être...
Oui, dès lors qu'il y aura, bien sûr. On le fait avancer et puis la question de l'acquisition arrive avec l'aménageur, une fois qu'il sera désigné.
C'est quand même une idée déjà du financement, parce que ça va quand même coûter...
C'est justement... donc on sait déjà, avec l'étude de faisabilité, on sait déjà qu'on peut tirer un modèle économique de cette opération, sinon on ne l'aurait pas lancé. Après, ça va pas être évident, hein, c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de contraintes sur l'aménagement de ce terrain, notamment la pente, qui fait que il y a pas mal de contraintes. Mais le financement, il va être multiple, parce qu'il va être à la fois le financement lié à la vente des lots par l'aménageur. Donc, avec l'AMO, on verra si la personne qu'on recrute, c'est l'organisme qu'on recrute, c'est un aménageur ou aménageur promoteur. C'est-à-dire qu'il non seulement aménage tout le terrain, mais en plus construit sur les macro-lots, les commerces, les logements, etc. Donc, dans le bilan économique, il y a la vente de ces lots, une fois que tous ces terrains, une fois aménagés. Il va y avoir la contribution de la métropole sur l'espace public. Après, une fois qu'on sera avancé, il faudra que la commune se détermine, mais là, c'est là où on se déterminera, savoir si par exemple, mais ça c'est un choix politique qu'il faudra qu'on fasse à ce moment-là, est-ce qu'on souhaite, nous, communes, ou pas, acquérir par exemple des locaux. Voilà. Et il y aura aussi, et ça c'est l'autre point d'interrogation, c'est dans la répartition des compétences entre la métropole et la commune. La métropole prend en charge tout ce qui est voirie, réseau, enfin, voilà, assainissement, toutes ces questions-là. Mais, et après, dans le cadre de l'aménagement, elle demande une participation à l'aménageur, les fameux PUP. Voilà, alors, ça c'est un PUP, c'est qu'en cas d'un permis d'aménager. Là, si c'est avec ce contrat de concession, dans ce contrat de concession, toutes ces choses-là seront négociées entre la métropole, la prise en charge liée à la création de ces logements, à la création de ces commerces, la prise en charge des réseaux, des voiries par l'aménageur. La question qui risque de... Ou la commune, et là c'est encore un point d'interrogation, ça va dépendre du fameux pacte financier et fiscal qui va être élaboré de façon générale hein, sur les 31 communes, c'est la fameuse place. Dès lors que c'est une place qui va être réservée à un marché, où il y aura un marché, on n'est pas dans la voirie, au sens voirie circulante... avec ses abords, etc. Aujourd'hui, on sait pas. Aujourd'hui, ce n'est pas une compétence métropolitaine. Donc, c'est cette partie-là où il faudra voir dans la négociation. Mais ce sera aussi fonction du pacte financier et fiscal qui est en cours d'élaboration, qui essaye de mieux clarifier, de mieux mettre à plat par rapport au transfert de voirie. Qu'est-ce qui, dans l'avenir, revient bien compétence communale parce que c'est voilà, c'est pas transféré. Voilà. Et qu'est-ce qui est espace public métropolitain? Donc c'est là où il y a encore un point d'interrogation. Mais toujours pareil, ce sera une négociation aussi à avoir avec l'aménageur. Donc ce cofinancement. Mais bon, la très grosse partie des travaux d'aménagement sont financés par l'aménageur dans ce montage-là. Un peu à l'image de ce que vous avez, qu'il s'agisse de logement ou de commerce ou que de logement, voilà, l'aménageur, dès lors qu'il met en place les...
C'est là qu'il faut tout la mettre en place. C'est un aménageur privé, c'est que ben, c'est son business de faire des sous dessus, il va faire un maximum de logements. En contrepartie, la place va être réduite. Il va essayer de la réduire au maximum pour faire un maximum de logements.
Mais non, si dans les invariants, on a fixé une surface voilà. Minimum, donc, il ne peut pas.
C'est à nous à bien être...
bien sûr.
Enfin, voilà,
il y a des aménageurs publics qui peuvent répondre.
Sur la serre,
ils sont moins gourmands les gros promoteurs.
C'est pas si simple.
J'espère.
C'est pas si simple. Il faut juste savoir qu'au prochain conseil métropolitain, ça a été discuté ce matin en conférence des. On va voter ce qu'on appelle les CRAC, les comptes rendus d'activité, de concession de la CERN. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la métropole mandate la CERN pour un aménagement, etc., ça peut être un aménagement, et puis derrière, ensuite, la gestion de l'aménagement. Ça va dans les zones artisanales que vous connaissez à Cournon-Terral, à Cournon-Sec, à Nibal, etc. C'est la CERN qui les a aménagées, mais aussi qui, après, les gère. C'est-à-dire loue les bâtiments, etc. Ça, c'est Renaud Calva, le vice-président aux finances, qui nous l'a dit. Aujourd'hui, la métropole vote tous les cracks de la CERN négatifs, c'est-à-dire subventionne. Donc, il faut qu'on arrête, parce qu'il y a même des actes logements, où on le sait, les aménageurs font en général des bénéfices et des marges. Mais même sur certaines opérations purement aménagement, la CERN a sorti des cracks négatifs. Donc ça ne peut plus durer. Donc c'est pas si simple. Donc donc Renaud Calva l'a expliqué. Et donc au sein de la CERM, il y a eu je vous le dis que ça a été dit. Donc il y a eu une demande explicite de la FOSS au directeur de la CERM pour refaire le point au sein des services, pour comprendre pourquoi au sein de la CERM ils arrivent à des résultats négatifs.
Voilà.
Donc ça, ce que je veux dire, c'est que le débat public-privé n'est pas si simple. Et je pense que c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'on a besoin d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que l'aménageur privé fera un bon travail dès lors que notre cahier des charges il est hyper bien élaboré et qu'on a bien veillé à tout. Dès lors que ce cahier des charges il est bien fait, qu'on a bien veillé à ses invariants, à ses données, etc. Ben après, c'est son métier, aménageur, de faire. Et si on les met en concurrence, ils vont essayer d'être le plus créatif, le plus intéressant possible pour être retenu. Donc c'est pour ça que c'est toujours pareil. C'est face au privé, c'est la qualité de la maîtrise d'ouvrage qui fait la différence. C'est à nous d'être armés pour être exigeants et veiller à ne pas nous laisser des zones d'ombre qui feraient que le projet... ne serait pas à la hauteur. Ce qui fait la qualité d'un projet, c'est autant la maîtrise d'ouvrage, la commande, que derrière la réponse.
Et on peut pas se passer d'un aménageur.
Ah non, le métier. Déjà le métier de l'aménageur. Déjà le métier de la promotion. Le métier de la promotion. On en parlera. Il y a d'autres projets. C'est un métier, hein. Enfin. On peut le faire en tant que communal, mais d'aménageur, non. Même la ville de Montpellier ne le fait pas. Hein. Elle confie ça à des sociétés. C'est bien pour ça qu'on a créé, que les villes et les métropoles ont créé des sociétés, des SPL, des sociétés publiques locales ou des sociétés d'économie mixte, parce que c'est des métiers quand même.
Et l'assistant maîtrise d'ouvrage a un rôle important dans ce
bien
projet.
Sûr. Ouais.
Il est recruté pour combien de temps ou est-ce
pour la mission.
Pour la mission, là, jusqu'à ce qu'on. Pour nous soutenir, au moins, enfin, on va voir. Là, la métropole nous aide pour rédiger justement le cahier des charges. Parce que pour recruter l'AMO, il faut faire une lettre de mission. Cette lettre de mission, il faut elle-même la faire en cache-cate. Donc là, la métropole nous aide pour rédiger et on la regardera en commission d'urbanisme. On vous en reparlera de cette lettre de mission. Ah, ça, par contre, c'est communal.
C'est d'accord. Ouais.
Alors après, on peut essayer de demander des subventions à la métropole, on essaiera, pour qu'elle nous aide à financer cette étude.
Et puis tu le rentres dans le bilan de l'opération.
Voilà,
c'est
ouais.
Une avance que tu fais. Hein.
C'est une avance. Il faut savoir que c'est exactement c'est ce que tu fais. C'est-à-dire qu'on demandera à l'aménageur, c'est un peu la même chose qui avait été faite sur. Qui est faite classiquement hein, sur les aménagements, les études qui sont faites en amont, on demande à l'aménageur de les rembourser, de les prendre en charge.
Je crois que tu nous avais dit que la commune n'a pas d'architecte conseil.
Non. On a une convention. Alors, on a un archi, on a un terme qui le conseil. On a une convention avec le CAUE aussi qui nous a beaucoup aidés, par contre. Le CAUE, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Ouais.
voilà, qui nous a beaucoup aidé pour le, au moment de notre projet urbain, au moment de la ZAC, quand on a fait les OAP pour la modification de la modification de PLU pour le, les saliniers, etc. Donc voilà. C'est vrai que c'est une question qui se pose, hein, les communes, l'architecte conseil. Alors, par contre, pour tout ce qui est, on demande, pour toutes les délibérations qu'on va prendre, on demande conseil à notre avocat, pour être sûr que la procédure est bien sécurisée. L'avocat avec lequel on a signé une convention et qui nous donne des conseils. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Eh bien, je mets au vote. Donc cette affaire avec donc pour le, la création de le lancement de ce projet de création d'un cœur de village. Donc on vous demande d'approuver le périmètre et les objectifs de l'opération comme ils ont été définis, d'approuver le principe de l'engagement d'une concertation préalable, d'autoriser de m'autoriser à recruter un AMO et voilà, toutes les question afférente. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc adopté à l'unanimité. Et puis maintenant, ben, on va changer totalement de sujet. La parole à Dominique. On va verser dans la biodiversité et les petits les animaux.
Voilà, donc il va être proposé deux délibérations. On va regarder la première en lien avec la lutte contre la prolifération des chats errants dans le village. Donc une première convention consiste à un partenariat avec la Fondation Grand-Pinet de la Nuit. Donc normalement la municipalité et la fondation s'engagent à participer financièrement chacune à hauteur de 50% à la réalisation de stérilisation, aux identifications qui y sont associées au cours de la période de validité de cette convention. Alors, la participation de la commune de Nuremberg-Montpellier est proposée à hauteur de 350 euros, ce qui permettra, sur la base d'une contribution de 50%, à assurer la stérilisation des 10 chats. L'intégralité des... On verra l'annualité de la convention, ça c'est une convention annuelle, on verra de quelle façon elle se conduit. L'intégralité des frais de stérilisation et d'identification sont définis et encadrés par cette convention. Alors, cette convention, dans la pratique, ne sera pas reconduite tacitement. Donc, pour l'année suivante, on va refaire une nouvelle demande de convention, et qui sera, qui sera sur une base, et qui sera renégociée à la fin de chaque exercice. Donc, le conseil est amené à délibérer sur la signature de cette convention de partenariat avec la Fondation Campagne.
Monsieur Dominique. Ouais. Est-ce qu'il y a des observations ?
Comment ils font la chasse aux chats ?
Eh bien, on y vient. C'est la délibération d'après.
Là, on est sur la partie convention qui permet de couvrir les frais vétérinaires. Donc, il y a un vétérinaire qui va être pressenti et qui va assurer les opérations de stérilisation. Et lui, il se contente que de recevoir les chats et de les stériliser. Il faut bien que quelqu'un donne les chats, les reprenne et les remette.
Peut-être une précision, Dominique, c'est que dans le mandat précédent, on avait déjà fait une opération comme ça, mais à l'époque, 30 millions d'amis avaient des financements par ailleurs, je ne sais plus de où, et donc on n'avait pas à prendre en charge la stérilisation. On avait juste l'association. Et là, maintenant, c'est fini. Et 30 millions d'amis n'a plus ce cofinancement, alors je ne sais plus d'où il provenait.
Du ministère,
voilà. Et donc, demande aux communes maintenant de cofinancer les stérilisations. Voilà.
Juste une remarque sur le nombre, parce que 10 chèvres, ça fait beaucoup, ça fait pas beaucoup. Mais je peux
dire, voilà. 10 chèvres, ça fait pas beaucoup.
Voilà.
C'est ce que je veux dire. Voilà, on considère dans les estimations qu'il faudrait atteindre, je dirais, si la commune avait des moyens plus conséquents, on aurait visé beaucoup plus haut. À la Virée, ils étaient sur 20 chèvres, ce qui n'est pas non plus.
Non, ouais,
ça reste limité. Mais c'est vrai que ce qui est important que ce soit une opération, si on peut la conduire de façon pluriannuelle, c'est nécessaire. Et il faudrait pouvoir monter un petit peu en capacité, parce qu'il faut savoir que si on loupe une année, ça explose. Donc il faut avoir une intervention constante et essayer d'augmenter la durée. Il y a du monde. Hein. Non, non, mais plutôt moi qui font l'objet de gènes qui font l'objet de retour dans une discussion directe ou indirecte. Moi, plutôt de 40 à 50 chats, facile. Hein. Parce qu'après, ça dépend à quel moment on le fait. Mais si c'est au moment où il y a les petits, parce que c'est là ça se multiplie
par ça.
Non, mais s'il nous plaît, hein. Faut qu'on agisse là-dessus, parce que c'est...
Moi, je dirais, gérer les besoins de spécialisation, c'est sur ça qu'on est chez adulte. Après, il faut savoir gérer les petits chats. Non,
vous chattez.
On passe peut-être à l'adoption dans cette première convention. Qui est contre? Qui s'abstient? On fera un suivi, Dominique, hein, et puis s'il y a besoin. Et donc, la convention suivante, avec l'école des chats.
Voilà. Alors, en complémentarité... De la convention qui va être passée avec la Fondation 30 millions d'amis, qui, je rappelle, assure surtout la partie intervention des vétérinaires, il va être nécessaire d'appuyer les associations de bénévoles qui permettent de capturer les chats, qui permettent de les identifier, de les transporter jusqu'au vétérinaire, et puis, une fois qu'ils ont été opérés, de pouvoir les remettre soit en milieu naturel, soit les proposer avec la SPA. Parce qu'il soit recueilli par les personnes, à l'adopter. Alors, la façon dont ça fonctionne pour l'association, c'est que eux, c'est pareil, hein, c'est beaucoup de bénévolat, donc ça les aide un petit peu. Ils travaillent sur plusieurs communes, ils arrivent un petit peu à équilibrer. Pour un type d'information, la commune de la Brune, elle donne 400 euros par an. Donc normalement, nous on va effectivement avec Carmel, hein, qui va être un petit peu la cheville ouvrière des liens avec l'association. La commune donnera des indications géographiques sur les secteurs à traiter, parce qu'on voit qu'il y a des demandes plus ou moins clientes, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Après, je laisse les arbitrages, l'objet de discussion entre Armel et l'association pour essayer d'être le plus cohérent possible. Et puis il y aura un calendrier qui va définir les différentes périodes d'intervention dans les zones identifiées. Voilà, donc cette convention va prendre effet le jour de la signature, donc on peut penser que dès qu'elle sera adoptée, on va proposer à la signature de l'association cette convention de façon à pouvoir, d'ici la fin de l'année, procéder au versement de notre contribution autour de 150 euros. Alors, je me suis assuré quand même dans les deux derniers mois qu'ils étaient en capacité à pouvoir consommer la somme par rapport à un nombre d'interventions correspondant pour la commune de Lyon. Donc, eux, ils sont extrêmement bien, il n'y a pas de problème pour consommer les 150 euros. Et il faut savoir qu'ils font beaucoup plus que 10 chats sur Muriel. Puisqu'on a été pendant deux ans avec eux, comme disait souligné Isabelle, en 2017-2018. Mais il faut savoir que même lorsque ces conventions se sont éteintes, ils continuent à intervenir sur le bien, avec un niveau d'application un peu moins élevé. Donc de toute façon, il faut beaucoup plus que ce que l'aide financière leur permet de faire. Voilà, donc okay. Alors peut-être juste pour
Moi j'ai juste une question, peut-être que l'on passe, mais ils choisissent les mâles et les femelles, la question du genre, hein, ils choisissent les chats ou ils choisissent en priorité les mâles, priorité les femelles, c'est important, c'est le cycle de reproduction.
C'est complètement important. Moi je sais que j'ai insisté dans les réunions préparatoires.
laboratoire qu'on a eu avec le vétérinaire, pour dire que dans la mesure du possible, ça dépend aussi des chats qu'on attrape, c'est de privilégier les interventions sur les femelles, bien sûr. Parce que les mâles, elles en trouvent toujours. Voilà. Donc ça, je pense que le message est bien reçu, de temps en temps, s'il y a un mâle dans le dos, ils vont quand même le traiter.
On a fait ce genre, on se pose partout, vous
êtes comme mon âne, quoi.
C'est peut-être un peu sujet, mais est-ce qu'il n'y a pas des opérations à mener sur les chats domestiques avec propriétaires pour les neutraliser, je sais pas, je pense à des coupages de griffes ou des clochettes, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a pas des opérations de sensibilisation?
Alors, ce qui est important, c'est ce qu'on a
fait pour la
chérie,
Mais est-ce qu'il y a des choses à faire sur justement les chats qui sont disponibles et immédiatement capturables? Est-ce que des opérations de sensibilisation du public
Si, ça, on peut faire ça. Alors, pour les oiseaux. Oui,
parce que les chats, les chats errants font des plaies, mais les chats répertoriés sont aussi des plaies aussi.
Normalement, les chats, ils ont. Il y a tout un débat pour savoir chez ça d'avoir un économique. Parce que vous savez déjà s'il est errant ou pas de loin.
Ils ont plus, je pense.
Oui, mais c'est pas le frappé, quoi. Alors déjà, il faudrait qu'on arrive à sensibiliser sur le fait que, en signalétique, ça serait bien que les propriétaires des chats équipent leurs chats. Après le débat du collier, moi je suis très favorable dans les échanges qu'on a eu, je l'ai souligné à plusieurs reprises, j'ai insisté, que non seulement il faut le collier, il faut aussi la clochette. Parce que je rappelle que les chats sont quand même des gros destructeurs d'oiseaux.
C'est ça l'objectif.
Les machines de guerre. Je pense qu'on ne faut pas regarder que le côté chat, il faut regarder le côté de l'université.
Il faut donner des petits lapins, les arts.
Et là, je pense qu'il faut, il y a soit une sensibilisation à faire pour que les maîtres équipent leur chat de collier. Quitte à leur refaire le collier, parce que moi je le fais dans mes quartiers.
Sachant que les vétérinaires ne sont pas pour que les chats aient des colliers, parce que ça se coller sur le passage et ils crèvent.
C'est vrai qu'ils sont entre un chat par an sur la commune de Murviège pour peut-être 10 000 oiseaux qui passent là-dessus. C'est ça que je veux dire. C'est tout un problème. Bien sûr qu'il y a un risque qui est très faible. Parce que c'est le même débat que j'ai eu avec les personnes de l'association. Elles sont très hermétiques à ce discours. Je lui dis, faites attention, c'est 1 milliard d'oiseaux aux États-Unis, nous en France on doit être à plusieurs, on doit être à 100 millions d'oiseaux.
Les chats sont la deuxième disparition des oiseaux, la cause de disparition des oiseaux après les produits phyto.
Un chat, c'est 20 bestioles morts par jour.
Et je pense, je peux vous dire, moi je pense que la sensibilisation.
Ce que je propose, ce que je vois que le sujet passionne, c'est que...
C'est important, je ne faut pas se contenter d'agir là-dessus. Il faut une communication,
on va peut-être faire une.
Sur l'intérêt, les avantages et inconvénients de mettre à collier un chat par rapport à l'environnement.
Une question simplement technique. Pourquoi on fait un sort particulier entre les deux conventions? Il y en a une qui est... à tacite reconduction et l'autre qui est uniquement annuel.
Alors,
on voit pas. Parce que c'est un peu lié les deux. On attrape les chats, on les stérilise.
C'est-à-dire que si, le jour où la fondation dit je ne peux plus financer, j'ai plus les aides, ou qu'on considère qu'on s'arrête avec eux, on s'arrêtera avec eux. Mais on n'a pas besoin de refaire une nouvelle convention. Avec 30 millions d'amis, on va faire une convention tous les ans. On va pas s'amuser à en faire deux, à partir du moment où il y a une qui s'éteint, donc c'est un comme type.
D'accord.
On va mettre
au vote du coup la convention avec l'école des chats. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, à l'unanimité, merci. Et puis la dernière opération, c'est donc plantation d'arbres. Donc on en est à la troisième vague de plantation d'arbres, Laurent, parce qu'il y a déjà eu les arbres du plateau sportif,
les gros, les petits,
les haies, et là maintenant, donc là c'est avec le département, donc vas-y Dominique avec le département. Oui.
Donc le département de l'Hérault est très proactif sur la problématique environnementale liée à favoriser la présence d'arbres sur les communes. Ça a des avantages certains. Et donc, ils ont conduit une action annuelle consistant à proposer aux communes 8 000 arbres par an pour les différentes communes, donc le département de l'Yonne. Donc à cet effet, on avait fait une proposition limitée à cette époque-là à 10 ans, et d'autres communes pour notre puissance. Je pense que c'est un gros service technique. Alors, on nous a envoyé une liste d'arbres, hein, on a tenu informé de ces démarches préalables, à partir de laquelle on a retenu 10 essences, on a retenu 10 arbres sur 6 essences. Donc ces arbres-là ont justement été livrés, mais le département a souhaité que ce don d'arbres soit encadré par une charte qui permet de vérifier l'engagement de la commune à respecter les règles de plantation, à respecter l'entretien, c'est un petit peu contractuel, avec eux sur le bon accompagnement de ces plantations et leur pérennité. Donc, cette convention est là pour entériner le don qui est fait. Alors, les arbres aujourd'hui ont été récupérés il y a 15 jours. Ils sont provisoirement stationnés dans leur pot dans les jardins partagés. Et on a décidé ces derniers jours, suite à la demande de l'école maternelle, à ajuster la répartition de ces arbres, sachant qu'on aura entre 5 et 6 selon les difficultés de plantation qu'on aura sur la cour haute de l'école maternelle. Il y en aura un qu'on va mettre sur le stade pour remplacer un arbre, on va les voir, hein, pour éventuellement remplacer un arbre qui semble avoir souffert. Et puis on en aurait 3 dans les jardins partagés, dont 2 fruitiers qui sont mis dans la zone berger, 2 abricotiers. Et puis une essence qu'on va prendre, qu'on ne sait pas encore laquelle c'est, puisque dans les échanges qu'on a eus très récemment, on avait pensé mettre un sorbier aux oiseaux à l'école, qui prend les petites graines rouges qui tombent. C'était pas un bon plan pour les enfants du Cherbourg. Et donc on va quand même s'assurer avec les adultes de l'école que c'est peut-être pas une bonne idée, ou peut-être mieux leur mettre les 2 arbousiers plutôt que le seul arbousier.
Il faut voir avec la PMU, je veux mettre des arbousiers. On va voir la PMU, hein. Il y a des fruits,
dans ce cas-là, on mettra
Et on peut pas prendre plus d'arbres et faire participer la. On peut pas prendre plus d'arbres et faire participer la population, les habitants à la plantation.
Pour la plantation ?
Ouais.
Alors, pour la plantation, je pense que lorsqu'on va. Il y a au moins un des arbres qu'on va planter qui sera avec une glace en maternelle. Mmh. Et ensuite, on va voir de quelle façon on va organiser, c'est assez assez vite. Hein. Pour l'instant, on doit faire les trous la semaine prochaine. À partir de là, on va voir avec la directrice. Ben voilà, si on associe des enfants qui viennent voir.
Mais ce que je veux dire, c'est, tu disais, on n'a pas pris beaucoup d'arbres parce qu'on n'a pas beaucoup de.
De services techniques.
Oui.
Un arbre malade.
Non, quand vous voyez la taille des arbres, voilà, il faut quand même. On ne les prend pas dans un panier pour les arbres de jardin.
Oui, d'accord.
Alors, là, on a peut-être été un peu timide pour cette première année d'exercice.
Oui, parce que j'ai dit, on peut faire. On peut demander aux habitants de participer aux plantations.
Alors, je pense que. Ce qu'on voudrait, parce qu'on pense qu'avec l'engin que tu vas utiliser, terrassier, il ne va pas pouvoir accéder partout. Et il y a un endroit où on aimerait bien qu'il y ait un arbre. Et là, peut-être que celui-là, on va demander aux parents de venir creuser. Alors, en fonction de nos parents, on verra quel arbre est allé.
Bon, c'est toute une histoire, ces arbres. Bon, à moins qu'il y ait d'autres remarques, on met au vote. Donc, qui est contre cette délibération demandée par le département, qui s'abstient? Donc, c'est d'adopter à l'unanimité. On remercie Dominique pour la prise en charge de ce dossier complexe.
En fait, l'année prochaine, plus de chats.
Voilà.
On va arrêter là.
Ça a fait très d'avant, mais à 19h30, quand je suis partie de la rivière Longue, il y avait un troupeau de sangliers sur la route.
Du coup, attendez, on va continuer la discussion. Je propose qu'on close le conseil municipal. Vous êtes d'accord?
Oui.